L'entrepreneur social, c'est d'abord un homme ou une femme qui a l'esprit d'entreprise et qui est convaincu que l'économie doit être au service de l'homme et non l'inverse. Il ou elle a un projet et va se battre souvent contre vents et marées pour le réaliser. Jean-Michel Ricard et Jean-Daniel Muller sont deux anciens professeurs d'éducation physique. Ils ont créé en 1997 Ciel Bleu, Ciel avec un S, dont l'objectif était au démarrage de proposer aux résidents des maisons de retraite des activités physiques. D'abord pour le bien-être des retraités, ensuite parce que le sport est bon pour la santé, et ce qui est bon pour la santé est aussi bon pour la santé des finances de la Sécu. Rencontre avec Jean-Michel Ricard.
Pour faire passer un message et nos activités en maison de retraite au tout début, ça a été très difficile. Les gens comprenaient pas pourquoi des jeunes s'occupaient de personnes à la retraite, qui avaient en moyenne d'âge 80 et 85 ans. Notre activité devenait payante, mais ça a été... grâce aux bénéficiaires. D'ailleurs, je vous donne une petite anecdote. Dans les 10 premières maisons de retraite, on a commencé en 1998. La seule qui n'a pas voulu continuer suite à l'expérimentation, le directeur nous téléphone un jour en nous disant « Voilà, il faut que vous reveniez tout de suite. J'ai les résidents qui font une grève dans mon établissement tant que vous ne reveniez pas. » Voilà.
Mais vous aviez quel âge à ce moment-là ?
On avait 23 ans.
Comment vous regardez vos copains ? 23 ans, vous vous intéressez au bien-être des personnes âgées, voire...
Très âgées.
C'était pas forcément compris, bien perçu oui, compris non. Quand on est sorti avec Jean-Daniel des universités STAPS pour devenir prof de sport dans les collèges et lycées, on voulait que notre formation, l'activité physique, soit adaptée aux envies, aux capacités et aux besoins des personnes. Et en même temps, on est allé en direction des personnes âgées au début parce que on trouvait vraiment très particulier le comportement de la société en général en direction des personnes retraitées qui ont écrit notre histoire et qui, quand on parlait d'eux, c'était tout le temps un coup pour la sécurité sociale, un coup pour les retraites. Et donc c'était une manière de leur dire, voilà, on va vous amener quelque chose de qualité, de professionnel, en marque de respect. Et en même temps, ça va être utile à la société parce qu'on va faire, grâce à nos activités, des économies en termes de santé.
Mais avant que vous n'existiez, Jean-Michel Ricard, dans les maisons de retraite, les personnes âgées faisaient un peu d'exercice. Et vous l'avez dit, c'était gratuit. Et en quoi le service payant est mieux que le service gratuit ?
Le service gratuit était fait essentiellement par des bénévoles. C'est très important, mais je pense que la formation est essentielle. Tous les intervenants chez nous, entre Bac plus 3 et Bac plus 5, les personnes fragilisées au niveau de la santé, au niveau social, au niveau psychologique, ont droit à des choses de qualité et accessibles financièrement.
Mais c'est une question de droit ou d'efficacité ? Je comprends pas très bien.
Un
parce
droit,
qu'en gros, pour les personnes âgées, il s'agit de se dégourdir un peu les jambes de temps en temps.
C'est plus que se dégourdir les jambes. Je vous donne un exemple. En ce moment, on a une grosse recherche de santé publique avec l'INSERM de Villejuif sur la prévention des fractures pour les femmes de plus de 75 ans. Ce qu'on est en train de démontrer et de prouver, c'est qu'avec une activité régulière, une fois par semaine, le nombre de chutes graves est en train de diminuer. Donc ça a des vrais effets pour les personnes. Et en même temps, c'est des bénéfices pour la sécurité sociale, pour la société en général, parce que le coût d'une fracture et d'une hospitalisation en France, c'est à peu près 40 000 euros.
Quand vous avez 23 ans, vous savez ce que ça veut dire, entrepreneur social ?
Bon, on a découvert le nom entrepreneur social quand on a été l'une des premières structures primées par Ashoka. Voilà. On a le droit, même si on est une petite structure comme nous, d'avoir un discours politique au sens noble du terme, en disant que voilà, on veut faire passer des messages. Pour nous, la vieillesse, c'est pas une problématique, c'est une chance. On sait qu'on va vieillir plus longtemps, mais si c'est pour vivre de façon dépendante, ça sert pas à grand chose. Et le slogan de notre structure, c'est « Donnons de la vie aux années ». Et l'entrepreneuriat social, c'est ça pour nous, c'est une mission sociale et aussi une rentabilité économique, parce qu'une belle idée, si elle n'est pas pérenne financièrement, mais on peut pas avancer et donc on peut pas toucher toujours plus de personnes.
Alors justement, Jean-Michel Ricard, entrepreneur social, c'est efficace économiquement et socialement utile. Vous employez 260 salariés, mais pour assurer la rentabilité, vous êtes allé voir ailleurs, aussi bien à domicile que dans les entreprises.
Parce que vous n'aviez pas accès, même si vous en avez un peu envie, aux subventions.
Tout à fait. Mais en France, on est inclassable, on n'est ni santé, ni sport, ni action sociale, parce qu'on rentre pas dans les cases. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve des modèles économiques. Un des modèles économiques les plus innovants, c'est avec la création de GPS Santé.
Et qu'est-ce que fait GPS Santé ?
GPS Santé propose des activités de prévention santé dans le monde du travail au sein des entreprises, pour les salariés, avec des grands thèmes qui sont la prévention des TMS et des accidents de travail, avec des actions...
TMS.
TMS sont les troubles qui représentent 75% des maladies professionnelles. Nos premières actions ont été menées en direction du BTP, avec des mises en place d'échauffement à la prise de poste le matin. Ça a tellement bien marché que les accidents de travail ont diminué d'une façon très très importante. Et à partir de là, on a pu aussi proposer une offre globale de santé au travail, plus seulement au niveau de l'activité physique, mais aussi le lien avec le cognitif et les risques psychosociaux, où on en parle beaucoup.
Et l'autre volet, le domicile. Avoir son coach chez soi.
Le terme coach, on n'aime pas beaucoup.
Je m'en doutais.
On va dire plutôt chargé de prévention. Donc, c'est des séances à domicile en direction de personnes âgées, de personnes handicapées, dépendantes ou non, qui ont des problématiques de santé au niveau lombalgique, qui suivent des chimiothérapies. Et l'objectif de ces activités à domicile, c'est redonner confiance aux personnes de ressortir de chez eux. Donnons encore la chance aux personnes d'être autonome. Et GPS Santé, il a vu le jour il y a 2 ans maintenant, qui est une entreprise commerciale qui appartient à 100% à l'association, et 100% des dividendes et des bénéfices remontent à l'association.
Et tout cela, ça semble évident, ça semble simple, et c'est révolutionnaire. Des jeunes qui s'intéressent aux aînés, comme on dit maintenant, qui considèrent que la vieillesse est une chance, et qui ont l'idée de mutualiser les coûts pour que tout le monde en profite. Ensuite, ils découvrent que, sans le savoir, ils ont de bons projets d'entrepreneurs qui sont susceptibles d'avoir un fort retour sur investissement social. Enfin, ils ne demandent rien à la collectivité. Explication de ce qu'est l'entrepreneur social par Virginie Segers, maître de conférence à Sciences Po Paris et à l'ESCP, co-auteur avec Sylvain Allemand de L'audace des entrepreneurs sociaux, concilier efficacité économique et innovation sociale, et c'est publié chez Autrement. Virginie Segers.
Un entrepreneur social, c'est quelqu'un dont le projet social est supérieur ou égal au projet économique. Donc la vocation, elle est sociale. À ne pas confondre avec la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est le fait que les entreprises ont pris conscience progressivement qu'elles ont en effet une responsabilité à l'égard de la planète et des hommes, et elles vont essayer de limiter les dégâts, les risques collatéraux et tout l'impact négatif de leur activité. Mais il faut bien distinguer les deux.
Est-ce que l'entrepreneur social se préoccupe d'abord de ses salariés? Vous me voyez arriver avec mes gros sabots en direction du paternalisme.
Alors là aussi, concept un petit peu différent, il est évident qu'un entrepreneur social qui a une vocation sociale, alors ça veut dire quoi une vocation sociale? Ça peut être répondre à des besoins qui ne sont pas couverts ni par l'État ni par le marché en termes de solidarité, d'accès à l'emploi, d'accès au logement, d'accès aux soins. Ça peut être le commerce équitable, ça peut être les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées, etc. Ça n'a rien à voir avec des entreprises capitalistes qui fabriquent des yaourts ou qui font du bâtiment et qui vont tout à coup avoir de plus en plus de préoccupations, d'une part envers leur impact environnemental et d'autre part sur la gestion de leurs salariés. On peut espérer qu'un entrepreneur social soit d'autant plus attentif évidemment à ses salariés, à ses collaborateurs, qu'il a cette préoccupation éthique.
Et ça l'est dans la réalité, vous qui les connaissez bien en tous les cas en France?
Dans la réalité, oui, ça l'est parce que d'abord, plusieurs d'entre eux ont opté pour un modèle économique qui n'est pas capitaliste. Beaucoup ont un modèle mixte qui est à la fois associatif et capitaliste. Alors ça, c'est très innovant. Ils se sont développés sous la forme associative, parce que l'intérêt général était au cœur de leur projet, de leur ambition. Et ils se sont rendus compte que pour accéder au marché, pour développer des filiales, pour toucher un plus grand nombre d'usagers et également pour être plus efficaces, il fallait passer par une structure commerciale et une structure de capitaux. Simplement, ils ont fait en sorte que ce soit l'association qui possède la structure de capitaux. Et du coup, l'ensemble des profits remonte à l'association pour servir son objectif d'intérêt général. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui aujourd'hui ont ce modèle mixte, hybride, qui permet à la fois d'avoir des subventions au travers de l'association et de faire appel au mécénat, à la philanthropie. Et d'autre part, avoir accès à des capital risqueurs qui vont investir dans la structure commerciale.
Vous avez publié un livre où vous parlez de tous ces entrepreneurs sociaux, un véritable mode d'emploi et aussi la philosophie, l'audace des entrepreneurs sociaux. Pourquoi l'audace? Il faut de l'audace pour être entrepreneur social.
Oui, on ne naît pas entrepreneur social. Ce sont des gens qui, un jour, ont été enragés et ils voyaient bien que les solutions classiques ne suffisaient pas. Il fallait inventer autre chose. Et ils ont eu envie d'allier à la fois le professionnalisme qu'ils avaient acquis au travers souvent d'une expérience dans l'entreprise à une sensibilité plus grande au genre humain, donc efficacité économique, mais aussi innovation sociale.
Est-ce qu'ils veulent changer le monde, ces entrepreneurs sociaux?
À leur façon, oui, mais peut-être pas dans la même vision, parfois un peu trop angélique ou conquérante, de nos amis anglo-saxons.
Mais il y a une phrase dans votre livre, d'ailleurs, qui est amusante. Les entrepreneurs sociaux ne se contentent pas de pêcher un poisson, ni d'apprendre à pêcher. Ils ne seront satisfaits que lorsqu'ils auront révolutionné l'industrie de la pêche. Et ça, c'est le fondateur d'Ashoka.
C'est exactement. C'est Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, qui est aujourd'hui le plus grand réseau dans le monde d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux très innovants, très ambitieux, avec parfois une critique d'élitisme quant au choix de ces entrepreneurs. Moi, je fais partie du comité de lancement d'Ashoka en France et je trouve que c'est un mouvement exceptionnel. En effet, très exigeant, et on voit bien que l'idée, c'est en effet qu'ils changent le monde. Et tant mieux qu'il y en ait certains qui proposent des modèles totalement alternatifs, qui peuvent d'ailleurs nouer avec des grandes entreprises capitalistes des partenariats innovants. L'alliance des deux compétences va permettre... Oui, peut-être de sauver le monde.
À défaut de sauver le monde ou de changer le monde, l'entrepreneuriat social est une voie pour réformer le capitalisme. Daniel Hursel en est convaincu, avocat d'affaires. Il n'appartient pas au monde de l'économie sociale. Il vient de publier La Nouvelle Économie Sociale aux éditions Odile Jacob. La crise ne sonne pas le glas du capitalisme et il faut être naïf pour croire que le salut peut venir de l'éthique ou d'une autorégulation des acteurs économiques. Mais il y a une troisième voie possible. Daniel Hursel.
C'est la fin, je crois, enfin je le souhaite, que ce soit la fin d'une certaine pratique du capitalisme.
Des excès.
Ben remarquez, quand on voit les bonus en ce moment, on se dit business as usual, on est reparti comme avant quand même.
Tant qu'on ne changera pas les fondements, pourquoi ne repartirait-on pas comme avant?
Et on ne change pas les fondements, pourquoi?
Parce qu'on ne prend pas le temps de regarder les questions avec un tout petit peu plus de recul. À partir du moment où une entreprise doit avoir comme but, comme finalité, de partager le profit, c'est ce que lui demande la loi. Pour le partager, il faut le faire, le maximiser. Pourquoi ne paierais-je pas un bonus extrêmement important à quelqu'un qui me permet de réaliser un profit important?
Mais peut-être que cette crise, elle aura eu du bon, parce que le profit, ce n'est peut-être pas uniquement des euros ou des dollars, c'est peut-être du social. Réponse.
Ah, réponse. Le profit comme but ultime a vécu son temps, a été utile, mais il faut passer à autre chose. Donc oui, le profit peut se mettre demain, j'en suis persuadé, au service d'une finalité qui le dépasse, qui soit une finalité sociale, sociétale.
Et en plus, ça correspond à une aspiration d'une nouvelle génération pour qui le profit n'est pas forcément le seul but dans la vie. D'où c'est toutes ces initiatives qu'on voit depuis quelques années, c'est un phénomène relativement récent de l'entrepreneuriat social, Daniel Hursel. Il y a une demande de sens à l'issue de cette crise.
Oui, il y a une demande de sens. Pas seulement, et on ne la voit pas seulement parler chez les gens qui ont créé une entreprise sociale, on la voit, elle est forte et elle est souvent source de malaise dans son métier. Elle est forte de la part de gens qui travaillent dans des entreprises. Ils veulent pouvoir se reconnaître dans quelque chose qui dépasse l'accumulation du profit.
Alors, vous dites, Daniel Hursel, qu'il ne faut pas opposer capitalisme et économie sociale, mais finalement ce social business en anglais, parce que finalement c'est dans les pays anglo-saxons que ça a commencé. Bon, l'entrepreneuriat social, ça serait quoi? Ça serait un capitalisme avec un supplément d'âme?
Oui, ce serait un capitalisme avec supplément d'âme, mais ça, c'est la résultante. Je vois un article de Thierry Jantet et de Michel Rocard, l'économie sociale, une réponse à la crise, qui s'appuie exclusivement sur les instruments qui remontent pratiquement tous au 19e, ce qui n'est pas péjoratif, mais bon, la coopérative, l'association, la fondation. Et puis il y aurait, de l'autre côté, le monde affreux, le monde du profit. Il faut absolument, il est indispensable que nous dépassions ce clivage. Le social business est intéressant à étudier de près parce qu'il est un pont entre ces deux secteurs. Pour moi, si on le développait davantage, il pourrait montrer la voie d'une évolution du capitalisme qui l'humaniserait davantage.
Mais quand vous dites si on le développait davantage, d'abord c'est qui on et si, quelles seraient les conditions?
D'abord, actuellement, en France, une société ne peut être constituée que pour partager les profits. Il faut donc que l'article de fondement du Code civil, on ne parle pas de rien, le fondement du Code civil 1832, s'enrichisse d'une alternative.
Donc vous proposez un nouveau statut juridique pour la société d'intérêt social. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un nouveau statut que ça va se développer?
Pardon, je propose d'abord de permettre d'utiliser la société, sans parler d'un nouveau statut, également pour une finalité sociale. dire à nos jeunes qui demain, nos jeunes ou moins jeunes qui veulent créer une société, vous pouvez le faire. Ensuite, mais ensuite seulement, je pose une autre question. Faut-il préconiser un statut particulier ? Oui, il faut le faire, à mon avis, pour une période temporaire, de manière à permettre le développement d'un secteur qui a besoin d'être aidé. Pourquoi a-t-il besoin d'être aidé ? Parce qu'il est peu connu, donc il faut lui donner une marque. En lui donnant une marque et en l'assortissant d'un certain nombre de conditions, on va rassurer ses interlocuteurs. Il faut que les banques financent ce secteur-là pour qu'elles le financent. Il faut qu'elles soient un peu protégées, car leur degré de risque est plus élevé qu'avec une société traditionnelle. Si j'ai en face de moi une société qui a un but social, la maximisation des profits devient moins forte, donc moi, en tant que créancier, je suis moins protégé.